Radio Kapi. Oh, Kapi. Jean-Désiré Kanyama pour le journal.
Au sommaire de ce journal, les nouveaux députés nationaux élus aux élections du 20 décembre 2023 dernier prennent le chemin du Palais du Peuple ce lundi pour la plénière inaugurale. Présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, cette plénière procédera à la mise en place du bureau d'âge qui sera aussi présidé par le doyen de la Chambre et des deux plus jeunes députés élus. Le cardinal Fridolin Ambongo appelle le peuple de la région de Grand Lac à vivre dans l'amour et dans le dialogue pour arriver à une paix durable. Appel lancé hier dimanche à Goma lors de la messe célébrée pour la paix entre les populations de la RDC, du Rwanda et du Burundi. Près de 80% des propositions de loi déposées au Parlement au cours de la législature 2019-2023 n'ont pas été adoptées. C'est ce qui est dit dans le rapport de l'Institut Ebouteli à travers son baromètre de l'activité parlementaire de l'action gouvernementale. Nous en parlons à la fin de ce journal avec notre invité Fred Bauma, directeur exécutif d'Ebouteli. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Et notez tout d'abord que les Léopards de la RDC jouent les Sili nationales de la Guinée en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ils ont validé leur ticket en éliminant les Pharaons d'Égypte après la séance des tirs au but 8-7 hier dimanche au stade Laurent Pokou de San Pedro. Les Congolais accèdent ainsi à cette étape 7 ans après où ils avaient été éliminés par les Ghanéens. Et l'adversaire de la RDC, la Guinée, elle, est venue à bout de la Guinée équatoriale sur le score étriqué d'un but à zéro. Dans l'actualité, les nouveaux députés nationaux élus aux élections du 20 décembre 2023 sont convoqués ce lundi au Palais du Peuple ici à Kinshasa. La plénière inaugurale sera présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale conformément à l'article 114 de la Constitution. Cette plénière procédera à la mise en place du bureau d'âge présidé par le doyen de la Chambre et aidé par les deux plus jeunes députés élus qui conduiraient cette session inaugurale jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour. Quelle est la mission du bureau provisoire et quelle implication politique de l'installation du nouveau Parlement? Un reportage de Michel Kifindango est rendu par Blaise Dongala.
En vertu de l'article 114 de la Constitution, le bureau provisoire sera présidé par les doyens d'âge, sûrement Christophe Mbosso-Nkodia, assisté de deux moins âgés dont Emmanuel Bahati, fils de l'actuel président du Sénat. Ce nouveau bureau mettra en place une commission spéciale qui procédera à la vérification des dossiers de chaque député en vue de la validation prochaine de leur pouvoir. Cela impliquera, conformément à l'article 108 de la Constitution, la démission de plusieurs membres du gouvernement et des autres institutions du pays pour des raisons d'incompatibilité de fonctions. Seront donc concernés par cette mesure, nous pouvons citer les premiers ministres Samalou Kondé, les vice-premiers ministres Vital Kamerhe, Peter Kazadi, Christophe Lutundula, ainsi que plusieurs membres du gouvernement élus députés. L'actuel président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et les membres de son bureau, ainsi que certaines autorités des institutions provinciales devront également démissionner pour faire valider leur pouvoir. Cette session inaugurale procédera également à l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, suivi de l'installation du bureau définitif qui marquera la clôture de la dite session.
Et par ailleurs, les chefs de l'État devraient s'abstenir de nommer au gouvernement et dans les entreprises publiques tous ceux qui ont été élus députés nationaux afin de leur permettre de travailler uniquement pour ce pouvoir, pour ce pourquoi ils ont été élus. C'est ce qu'ont revendiqué les organisations de la société civile parlementaire qui estiment que cette pratique de nommer des élus qui laissent leur siège à leurs proches assassine le contrôle parlementaire, installe une oligarchie ou mieux une kleptocratie. Des détails avec Michel Kifindangoy.
La dynamique de contrôle citoyen des activités des représentants du peuple en RDC, dit CARP, plaide pour que le nouveau Parlement soit réellement au service du peuple et non des autorités morales. Pepe Kifou.
Le président de la République a promis dans son discours qu'il faut corriger les erreurs du passé. Nous attendons que ces erreurs du passé ne puissent plus se répéter. Donc nous avons besoin d'un Parlement au service de la nation, au service du peuple et non au service des individus.
Le bureau des liaisons de la SENCO avec le Parlement redoute que toutes les fonctions public soit prise en otage par certains élus actuels avec leurs membres de famille. Jean-Paul Moulianga.
Mais connaissant nos acteurs politiques, avec tant leur malice et ruse politicienne, beaucoup de ceux qu'on a vus là élus vont tout faire pour se faire nommer soit dans le gouvernement ou comme mandataire. Et comme ça, ils vont libérer leur place au bénéfice de leurs membres de famille proches. Finalement, nous risquons de revivre les mêmes tâches qu'on a décliées par le passé avec la naissance d'une oligarchie, une kleptocratie.
Le coordonnateur du BELPESENCO invite donc le chef de l'État à éviter les erreurs du passé en se refusant de nommer les nouveaux élus au gouvernement ni dans les entreprises publiques afin de leur permettre de travailler efficacement comme représentants du peuple.
En bref, réhabilitation de certains gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Le mercredi 25 janvier par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, la sécurité et des affaires coutumières, Peter Kazadi. Il s'agit de Gentiny Ngobila de Kinshasa, Bobo Boloko de l'Équateur, César Limbaya de la Mongala, Pancras Bongo de la Tuapa et des deux vice-gouverneurs, ceux de la Tuapa et du Kasaï central, qui étaient suspendus pour fraude électorale par la CENI. Dans un télégramme officiel adressé au personnel, aux personnes concernées, il leur annonce leur réhabilitation dans leurs fonctions officielles suite à leur recours administratif et requête devant la Cour constitutionnelle en attendant les décisions judiciaires afin de préserver la tranquillité et la paix sociale. Il les invite du moins à observer des attitudes de réserve et à ne pas faire obstruction à la procédure judiciaire en cours. Et puis, le cardinal Fridolin Ambongo appelle le peuple de la région de Grand Lac à vivre dans l'amour et les dialogues pour arriver à une paix durable. Il a fait cet appel hier dimanche à Goma lors de la messe qu'il a célébrée pour la paix entre les populations de la RDC, du Rwanda et du Burundi. À l'esplanade de la paroisse Notre-Dame du Mont Carmel de Goma et devant les évêques catholiques des trois pays ainsi que les représentants d'autres confessions religieuses, le cardinal Ambongo a fait une analyse de la situation de crise dans la région. Il a invité les chrétiens à travailler chacun à son niveau pour la paix. Ses propos ont été recueillis par Rosalie Zawadi.
C'est que tous ceux qui s'approchent à la force, aux armes, pour se faire entendre dans la sous-région, nous pouvons reconnaître aujourd'hui qu'ils ont échoué. La solution qui consiste à imposer sa volonté aux autres par la force des armes, cette solution ne portera jamais de bons fruits durables. Dans cette sous-région, nous devons cultiver la vertu du dialogue.
Réagissant à l'appel du cardinal Ambongo sur la promotion des valeurs, de l'amour et du dialogue pour la paix dans la région des Grands Lacs, l'imam, chef d'entité islamique au Nord Kivu, a salué ce message. Cheikh Awazi Suleiman, qui a assisté à la messe de prière pour la paix à la paroisse Notre-Dame du Mont Carmel à Goma, promet de partager ce message du cardinal pour une grande prise de conscience dans la région. Il a dit au micro de Rosalie Zawadi.
Comme au Islam, washukuru wa katholiki kwanza cardinal ya Ambongo.
Nous les musulmans, nous remercions les catholiques, en premier le cardinal Ambongo. Nous remercions aussi les autres évêques venus des pays voisins, les Rwanda et les Burundi, pour l'organisation d'une telle rencontre afin d'annoncer la paix. Le message du cardinal est très profond, car c'est vrai, la guerre n'apporte pas la paix. La guerre ne conduit même pas au développement. Si nous n'avons pas la paix, nous n'aurons pas non plus le développement dans notre pays. Nous sommes témoins de la souffrance dans laquelle vivent nos frères venus de Rutshuru et Masisi par manque de paix. C'est pourquoi l'appel qu'il vient de lancer, à notre niveau, nous allons aussi les partager et dire aux autres que c'est de notre intérêt de construire la paix, que la guerre ne nous amènera pas la paix. La guerre n'apporte que des problèmes aux Congolais.
Notez que les représentants de plusieurs églises protestantes étaient aussi présents à cette messe organisée par l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale. Par ailleurs, sur le terrain des affrontements, un calme apparent s'observe sur toutes les lignes de front hier dimanche, aussi bien dans les territoires de Masisi, notamment à Karuba, Musongati, Katembe Kingi, ainsi qu'à Mweso, Boutale et Kibarisho, au Nord Kivu. Des sources concordantes dans le Masisi confirment la présence des rebelles dans la cité de Mweso, tandis que sur l'axe Karuba, ces rebelles seraient à Karuba, Bouchoué, Mandale et jusqu'à Mushaki. Cependant, dans la cité de Sake, plus au sud, les activités se sont déroulées normalement hier dimanche, malgré la psychose provoquée par des bombardements de samedi qui ont fait un mort et quatre blessés graves. Sous un autre chapitre, recrudescence des cas de criminalité, ce dernier temps dans la cité de Kimpese, en territoire de Songololo, nous sommes au Congo central. En une semaine, 400 de santé ont été visités par des bandits armés, les personnels soignants tabassés, l'argent et les dispositifs médicaux emportés. Trésor Boutandou, premier vice-président de la société civile, qui livre l'information, indique qu'à cause de l'inaction des services de sécurité observés à Kimpese, la population a pris l'option de l'achat des armes calibre 12 pour s'autodéfendre face aux bandits armés. Il se passe et ne se passe pas une nuit sans enregistrer des cas de criminalité, nous dit notre reporter Nana Plurich Mambou.
Les premiers centres à être visités par ces malfrats, c'est le centre de santé La Famille, situé au quartier 4 de l'avenue Madiadia. Et le second, c'est le centre de santé de l'église Sebuko au quartier 2. Ces bandits ont tabassé les personnels soignants, les gardes des malades, voire les malades qui leur résistaient. Avant de disparaître dans la nature, ces inciviques ont emporté le bien des valeurs des malades, ainsi que les dispositifs médicaux de l'hôpital, tels que les microscopes et les médicaments. Les jeudi, ces bandits ont refait cette sale besogne à l'hôpital Télépathie et au centre de santé Philippe. Après les menaces des morts à l'endroit des victimes, ces criminels ont pu ravir les coffres forts, les dispositifs médicaux ainsi que les biens des valeurs des malades. Ils sont allés clôturer leur opération dans une boulangerie de la place où ils ont volé tout l'argent de la commande des pains. Trésor Boutandou, premier vice-président de la société civile du territoire de Songololo qui dénonce cette recrudescence des cas de criminalité, affirme que les interventions de la police sont toujours tardives. Cette façon de faire pousse la population à vouloir s'autodéfendre en s'offrant des armes calibre 12 fabriquées localement, ajoute-t-il. Ces derniers invitent les autorités compétentes à agir d'urgence pour éradiquer cette insécurité. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Retour au Congo central avec cette hausse du prix du sac de ciment depuis le début de ce mois de janvier dans la ville portuaire de Matadi. Le prix d'un sac jadis vendu à 22 000 francs congolais se négocie désormais à 26 500 francs congolais. Le ministre provincial de l'économie, Roger Nimi, qui a réuni cette semaine les fournisseurs de ciment, indique que la principale raison de cette hausse est la relance depuis plus d'une année du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le ciment par le ministère des Finances. On l'écoute dans ce propos recueilli par Nana Plurich Mambou.
Il a été constaté depuis deux semaines passées la hausse du prix du sac de ciment qui est passé de 22 500 à 26 500 dans certains dépôts. Alors, cette hausse du prix du ciment m'a interpellé. Moi, en tant que ministre de l'économie, j'ai tenu une réunion à l'intention de tous les cimentiers. Les résolutions prises lors de cette réunion, il a été convenu qu'on puisse descendre dans les installations de toutes les cimenteries pour qu'on prenne contact avec les services commerciaux de toutes ces cimenteries-là et qu'on en découvre un peu sur le terrain, qu'on voit un peu la possibilité de réduire tant soit peu les prix du sac de ciment. C'est vrai que selon les arguments des responsables des cimentiers, c'est aussi la TVA qu'on a encore taxée parce que la TVA était suspendue, mais le délai était jusqu'au mois de décembre de l'année 2023. Les délais fixés étaient déjà expirés et donc ils ont commencé encore à percevoir la TVA. Donc voilà, et c'était ça l'argument principal qu'ils ont avancé. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons quand même décidé qu'on descende sur le terrain et qu'on parle un peu avec les services commerciaux. Et chose sera faite ce mardi et je serai dans les différentes cimenteries avec mon collègue de mine juste pour parler avec les différents responsables et leurs services commerciaux sur le terrain.
Et parlons de cet appel de la Direction générale des impôts à l'endroit des petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 10 et 80 millions de francs congolais et relevant des centres d'impôts synthétiques sur l'ensemble du territoire national. Ces petites entreprises doivent déclarer et payer 60% de l'impôt sur leurs bénéfices et profits. Pour l'exercice fiscal 2024 revenu de l'année 2023, l'échéance y afférente est fixée au 31 janvier prochain. Des détails avec Jocelyne Moussaoupondé.
Le taux est fixé à 1% du chiffre d'affaires déclaré de l'année 2023 s'agissant des activités de vente ou à 2% du chiffre d'affaires déclaré de la même période pour ce qui est des activités des prestations de services. Lorsque les petites entreprises exercent à la fois les activités de vente et des services, les chiffres d'affaires respectifs doivent être cumulés. Dans ces cas, la quotité de 60% est calculée sur le montant de l'impôt sur les bénéfices et profits afférents à l'activité principale. Les petites entreprises concernées sont donc invitées à retirer les formulaires de déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits auprès des centres d'impôt synthétique dont elles relèvent ou à les télécharger à partir du site web de la Direction générale des impôts www.dgi.gouv.cd. Tout paiement qui interviendra au-delà de l'échéance susmentionnée sera assorti de pénalités de recouvrement conformément à la loi, renseigne la Direction générale des impôts.
Actualité internationale.
Le Burkina, le Mali et le Niger ont annoncé dans un communiqué officiel conjoint le retrait de la CEDEAO avec effet immédiat. Après l'annonce de ce retrait, la CEDEAO s'est dit prête à une solution négociée dans un communiqué publié hier dimanche 28 janvier. Au Sénégal, des religieux appellent à des élections calmes, transparentes et au respect des résultats issus du vote du 25 février prochain. Face à la presse, le week-end, l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal a invité les différents candidats à la présidentielle à préserver les acquis démocratiques et éviter les syndromes des crises post-électorales.
L'invité.
Près de 80% des propositions de loi déposées au Parlement n'ont pas été adoptées au cours de la législature 2019-2023. C'est ce qui ressort du rapport de l'Institut Ebouteli à travers Talatala, son baromètre de l'activité parlementaire de l'action gouvernementale, publié jeudi à Kinshasa. Pour en parler, nous recevons Fred Bahouma, directeur exécutif d'Ebouteli. Il est interrogé par Michel Kifindangoy.
Monsieur Fred Bahouma, bonjour.
Bonjour Michel et merci pour l'invitation.
L'Institut Ebouteli a publié un rapport évaluatif des réalisations de l'Assemblée nationale de la législature 2019-2023. Quel bilan dressez-vous sur le plan politique du fonctionnement et du travail de cette Chambre durant les 5 dernières années?
D'abord, avant de commencer, je tiens à mentionner que nous suivons le travail du Parlement à travers notre programme Talatala depuis septembre 2020. Sur le plan politique, il faut dire que cette législature aura été très tumultueuse avec en cours de mandat aussi bien le renversement de la majorité au Parlement que le remplacement du bureau de l'Assemblée nationale. On a vu un Parlement qui était à grande majorité acquis au FCC de Joseph Kabila être repris avec plus ou moins les mêmes acteurs au profit du président en exercice, Félix Tshisekedi. On a vu aussi que ce Parlement, par la suite, a adopté pas mal de propositions de loi qui soutenaient exactement les opinions du pouvoir et qui, parfois, étaient contraires aux réformes qui avaient été proposées en amont.
Et quelle évaluation établissez-vous du point de vue de la production législative?
La production parlementaire de cette législature a été relativement faible, assez faible d'ailleurs. Sur près d'une centaine de propositions de loi déposées, il y a seulement autour de 20% qui ont été adoptées. On voit que pour chaque session, le Parlement adopte difficilement plus de 5 propositions de loi, ce qui est relativement faible, surtout lorsqu'on compare leur traitement et des attentes que la population a envers les députés nationaux.
De manière générale, pensez-vous que l'Assemblée nationale de la dernière législature a joué efficacement son rôle de législateur et de contrôle de la gouvernance publique du pays?
Alors oui et non. D'une part, le Parlement, législature qui vient de se terminer, a eu plusieurs initiatives de contrôle, notamment à travers l'activisme de certaines commissions comme la commission des défenses ainsi que la commission des droits de l'homme par exemple. Cependant, le Parlement n'a pas été réellement le centre du grand débat politique sur la gestion et la redevabilité des institutions. Après les renversements surtout de la majorité au Parlement, le Parlement congolais s'est plus ou moins réduit à une sorte de caisse de résonance, à part quelques exemples, notamment la motion, et c'est l'unique motion qui allait jusqu'au bout, la motion contre le ministre de l'économie. En général, le Parlement n'a pas été en mesure de sanctionner un quelconque responsable public et d'aller jusqu'au bout de cette mesure-là.
Au regard des leçons tirées de la dernière législature, que recommandez-vous à la nouvelle Assemblée nationale et au chef de l'État pour que le peuple ressente enfin les résultats du travail des parlementaires dans son quotidien?
Alors au Parlement, au prochain bureau et aux députés, moi je recommanderais de redonner au Parlement sa vraie place, c'est-à-dire les temples du débat politique libre qui finalement rythme la vie politique du pays avec des débats sur des sujets clés et d'utiliser le pouvoir de contrôle et de sanction qui lui est donné. La population a besoin de voir le parlementaire être actif et poser réellement des questions et voir le gouvernement venir répondre. Il y a une soif de redevabilité et le président de la République gagnerait à laisser le Parlement dicter un rythme positif sur la question de redevabilité des institutions.
Certains analystes pensent que le chef de l'État devrait arrêter de nommer au gouvernement et dans les entreprises publiques des parlementaires, car selon eux, cette pratique encourage une certaine oligarchie et kleptocratie qui étouffe tout contrôle parlementaire efficace. Pensez-vous que cet argument soit fondé au regard de votre évaluation de la dernière législature?
Je pense que les réalistiquement difficile d'empêcher que certains députés deviennent des ministres ou ambitionnent de devenir des ministres. Étant donné déjà que le gouvernement est une institution qui émane du Parlement. Par contre, je pense que les pays gagneraient à ce qu'on évite les cumuls de fonctions. C'est-à-dire, par exemple, que le parlementaire devienne également des administrateurs, des entreprises publiques et qu'ils soient rémunérés avec d'énormes sommes. Je pense que ce n'est pas une bonne utilisation des ressources publiques et aussi ça fait que le Parlement qui est censé contrôler ces institutions se retrouve potentiellement dans une situation de conflit d'intérêts.
Monsieur Freud Bauma, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité Freud Bauma, directeur exécutif de Bouteli, était interrogé par Michel Kifindangoy. Fin de ce journal qui a été coordonné par Noëlla Luzitouka Bambi et mise en onde par Jean-Claude Tsiala. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.